faux. Du mercredi.
Bon alors écoutez, je vais pas m'attarder beaucoup sur cette info, c'est juste un titre comme ça, qui m'a un titre de 20 minutes en l'occurrence. Affaire Carlos Ghosn, Renault a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien patron. 11 millions, c'est juste les dépenses suspectes, c'est à se demander la totalité des dépenses de ce bonhomme sur un jour, sur un an, sur une vie, ça paraît un peu fou.
Putain, voilà, ils sont gré quand même en ce moment, la justice tombe quand même, en ce moment, parce qu'il y a ça, il y a le siège de Total aussi qui a été perquisitionné je crois hier.
Non mais alors vous allez voir, après mon titre d'après là.
Ah attention, attention.
Bon, on va pas remettre déjà un petit gzzz de violon. Mais décidément aujourd'hui on va kiffer non seulement les juges mais même les procureurs. Ce qui est quand même vraiment pas tous les jours que ça nous arrive. Mais et alors là effectivement il se passe un truc depuis ce week-end. On dirait que, enfin un truc alors qui reste à analyser hein, et je vais même pas essayer de le faire, mais en tout cas les procureurs ont l'air moins sympas avec les flics depuis ce week-end. Et là on va nous parler de...
Ça te reste en travers de la gorge en tout cas.
Oui c'est ça, c'est que c'est quand même vraiment étonnant. Puisqu'on se rappelle qu'il peut arriver que des juges fassent du bon boulot, ça peut arriver par hasard, parce que les juges pour le coup n'ont pas de rapport hiérarchique avec le gouvernement, alors que les procureurs sont quand même très directement dans la hiérarchie du ministère de la Justice. Donc a priori, ils font quand même ce que le ministère leur dit. C'est pour ça que c'est vraiment étonnant dans l'ambiance où on est qu'ils puissent se permettre d'appliquer la loi sur des flics ou contre des flics. Bon là, la loi n'est pas encore appliquée dans l'histoire que je vais vous raconter. Mais en tout cas, un jeune garçon de 14 ans avait été gravement blessé au crâne par un policier. Alors il y a un long article pas mal sur Mediapart qui explique tout ça. C'était le 8 décembre dernier, en marge, à côté d'une manif de gilets jaunes. Et là, le parquet de Marseille vient d'ouvrir une enquête préliminaire. Le parquet, ça veut bien dire le procureur. En tout cas, ce jour, le 8 décembre, Karim et sa grande sœur Jamila rentrent chez eux. Sur la route, les deux jeunes gens, alors Karim, 14 ans, hein, les deux jeunes gens croisent des policiers qui les obligent d'abord à changer de direction. Et puis après, il y a des histoires, les flics ont l'air de leur courir après. Plusieurs policiers sont arrivés, ça c'est ce que raconte la sœur qui était là. Plusieurs policiers sont arrivés, ils étaient certains en civil et d'autres en tenue. Mon petit frère a eu peur. Il a ramassé par terre un trognon de pomme et il l'a jeté en direction des flics. Il n'a pas du tout touché le moindre flic. Toujours est-il que les flics les ont d'abord croisés. Du coup, Karim et sa sœur poursuivent leur route. Les flics sont dans leur dos. Et là, Karim, pouf, se prend un flashball dans la tête, enfin dans la nuque, derrière la tête. Un tir de lanceur de balles de défense, précisément. Bon, Jamila nous explique, j'ai vu mon frère tomber inanimé, j'ai voulu le secourir, mais un policier m'a retenu en m'étranglant et en m'écrasant avec son bouclier. Bon, les flics, quoi. Conduit aux urgences pour un traumatisme crânio-cervical et une fracture du crâne, le garçon se voit prescrire 21 jours d'ITT. Également traumatisé psychologiquement, les médecins constateront plus tard un état anxieux persistant avec cauchemars, une apathie et des insomnies avec une perte de 3 kilos. En l'occurrence, le gamin surtout est pas, ne sort quasiment plus de chez lui parce qu'il a trop peur des flics. Et alors quand Jamila, la sœur de Karim, a voulu porter plainte, elle a d'abord été confrontée à un refus catégorique et non motivé du commissariat d'enregistrer sa plainte, tout bêtement. Ils m'ont d'abord affirmé qu'il s'agissait certainement d'un gendarme et non d'un policier. Mais bon, juste sur la base du fait qu'elle venait poser plainte, quoi, je veux dire, avec aucun élément. Et ils m'ont dit qu'ils ne prenaient pas ma plainte sans rien me préciser de plus, explique Jamila. Bon, du coup, elle a contacté un avocat et c'est l'avocat qui a pu poser plainte et constituer le dossier pour son petit frère. Voilà, en tout cas, le parquet de Marseille vient effectivement d'ouvrir une enquête préliminaire pour violence volontaire aggravée par personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN a été saisi. Bon, on va pas non plus faire trop d'illusions sur le fait que l'IGPN a déjà identifierait le flic qui aurait tiré la balle de LBD. Mais déjà, c'est un peu incroyable.
QNUFO. Du mercredi.
Ah, alors, des nouvelles de Compaoré.
Alors, de François Compaoré, puisque Blaise, lui, d'ailleurs, on se... même plus très bien ce qu'il est devenu. En tout cas, Blaise Compaoré était le président du Burkina jusqu'à l'automne 2014 où il a été viré par un soulèvement populaire. Et à l'époque où il était président, son frère François Compaoré était quelqu'un d'un peu important dans le gouvernement. Le frère en question avait un chauffeur, David Ouedraogo, qui à un moment lui a déplu, et puis David Ouedraogo s'est retrouvé mort, avec même un peu torturé. Et à ce moment-là, un journaliste burkinabé, Norbert Zongo, avait mené l'enquête sur la mort de David Compaoré. Cette enquête, ma foi, l'avait approché de François Compaoré, le frère du président, de la garde rapprochée de François Compaoré. Et au fur et à mesure que l'enquête se rapprochait, enfin non, pas au fur et à mesure, tout d'un coup, pendant que l'enquête se rapprochait beaucoup, eh ben, Norbert Zongo lui-même est mort, c'est-à-dire qu'il a été tué avec trois autres personnes qui étaient dans la même voiture que lui, tués et leur corps brûlé. Et voilà, ça avait fait à l'époque, en 98, de gros soulèvements populaires, parce que Norbert Zongo était quand même... Alors le Burkina, il faut quand même toujours bien comprendre que c'est un pays qui a toujours eu une presse extrêmement libre, indépendante et courageuse. Des journalistes qu'on envierait bien souvent en lisant les médias français. Entre autres des journalistes d'investigation qui ont vraiment pas peur, et y compris pas peur face à un pouvoir autoritaire. Et du coup, qui peuvent avoir à des moments une sacrée grosse audience et une sacrée grosse popularité. C'était le cas de Norbert Zongo. Et donc, au moment où il est mort, ça a fait des grosses émeutes. Et puis après, pendant un certain nombre d'années, tous les ans, à l'anniversaire de sa mort, il y avait des gros soulèvements. Toujours est-il que, par ailleurs, la justice burkinabé avait vaguement ouvert une enquête, mais sans y faire grand-chose, jusqu'en 2014, où donc, suite au fait que le président ait été viré, le frère du principal suspect, eh ben, la justice burkinabé s'est remis à faire son boulot bien mieux à ce moment-là. Et donc, François Compaoré, lui, il s'est barré en France, où il est resté et où il est encore aujourd'hui, et la justice burkinabé a demandé son extradition. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre dans le processus de tout ça, c'est que le gouvernement français actuel, donc le gouvernement Macron, du fait d'avoir choisi d'avoir plein de gens qui sont particulièrement jeunes, et entre autres pas mal de gens qui sont pas très expérimentés en politique, en fait, Macron se retrouve pour la première fois depuis, en tout cas au moins depuis la Ve République, avec des ministres qui sont pas trempés dans toutes les saloperies de la France-Afrique. Ce qui veut pas dire qu'ils y tremperaient pas volontiers, hein, mais juste pour l'instant, ils ont pas eu le temps. Enfin, je veux dire, on peut pas savoir, mais en tout cas, de fait, c'est des gens qui sont trop jeunes. Et Macron a visiblement décidé d'en profiter pour essayer, en tout cas dans un premier temps, de changer les relations que peuvent avoir les pays africains, mais pas seulement les pays, aussi les opinions publiques africaines, avec la France, avec le rôle de la France, avec cette présence un peu post-coloniale, lourde de la France. Entre autres, il y a eu ce fameux discours qu'il a prononcé au Burkina, à Ouagadougou, devant des étudiants, où il a vraiment conquis son public, quoi. Et alors, sans doute que c'est lié à tout ça, mais en tout cas, hier, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a rejeté le pourvoi de François Compaoré. Et elle a aussi refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité déposée par sa défense. Toujours est-il que François Compaoré devrait être expulsé. Alors, ce qui nous manque maintenant, c'est juste un décret pour rendre effective l'extradition. Et ce décret, ce serait un décret présidentiel. Alors, le ministre burkinabé de la Justice, René Bagoro, a salué sur la télévision nationale une victoire d'étape. La présence de François Compaoré au Burkina est un élément important pour l'avancée du dossier Norbert Zongo. Nous sommes sereins, nous restons optimistes en espérant que les autorités françaises vont certainement prendre rapidement ce décret, afin que François Compaoré soit remis à la justice burkinabé, a déclaré le ministre. Et ma foi, peut-être que ça va réellement se passer.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Très bien. Hop, c'est l'heure de la chronique. Il faut que ça sache. Et un collectif d'avocats dépose plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'Union européenne. Alors, après 2 ans de travail, le collectif a remis un rapport qui analyse 5 ans de politique migratoire de l'Union européenne. Il faut dire qu'à mon avis, il doit y avoir des pages. Sont compilées toutes les mesures, discours, textes de loi et documents visant à dissuader les migrants de rejoindre l'Europe. Ils auraient eu moins de travail s'ils avaient cherché des preuves pour le contraire, par exemple. Pour le collectif qui dénonce la politique de refoulement des migrants, je cite, « L'Union européenne collabore avec les gardes-côtes libyens pour externaliser le contrôle des frontières, elle leur fournit des bateaux et participe à leur formation. » On y reviendra tout à l'heure dans la chronique. « Lorsque vous avez conscience que vous transférez de force près de 40 000 personnes, qu'au lieu de les sauver, vous les amenez précisément sur les lieux qu'ils fuient, l'objectif est de réduire le flux migratoire à tout prix. » Peut légalement être considéré comme criminel. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit là d'un crime contre l'humanité avec la commission de meurtre, de torture et de viol. Le collectif estime, fin de citation, avoir fourni une base factuelle à la CPI, la Cour pénale internationale, pour lui permettre d'ouvrir une enquête. De son côté, la CPI... enquête depuis 8 ans sur les crimes commis depuis la chute de Kadhafi. Le rapport de cette enquête devrait donc se croiser. Même si on imagine mal une condamnation de l'Europe, on espère à minima que l'Europe est à se justifier devant un juge. Oui.
Il faut que ça sache.
Oui. Pourquoi tu me montres du doigt comme ça?
On est entièrement sûr que là on est à l'antenne par exemple, parce que une petite lumière qui devrait être allumée ne l'est pas.
Ah ah! Bah normalement oui. Hein.
Bon alors très bien.
Je vais vérifier, vas-y.
Écoutez, si vous m'entendez, sachez que Amnesty International a sorti un rapport aujourd'hui où elle demande à la France de mettre fin aux agressions des défenseurs de migrants. Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty International dénonce des actes d'intimidation et de harcèlement, des mauvais traitements et des poursuites judiciaires infondées contre les défenseurs des droits humains. L'ONG demande l'ouverture d'un dialogue constructif. Amnesty International appelle la France à mettre fin au harcèlement et aux agressions, donc contre les défenseurs des droits humains, les gens en tout cas qui aident les migrants à Calais et à Grande-Synthe. Elle demande aussi de prendre immédiatement des mesures pour assurer un environnement sûr et favorable pour ces personnes. Depuis le démantèlement de la fameuse jungle de Calais en 2016, les défenseurs des droits humains disent subir une pression croissante. Leurs actions sont systématiquement entravées. Alors là, il y a presque partout des guillemets, hein, c'est tout des extraits du rapport. Ils sont soumis à des actes d'intimidation et de harcèlement, à des mauvais traitements, et dans certains cas font l'objet de poursuites judiciaires infondées. Un traitement intrinsèquement lié à la manière dont sont traités les migrants et les migrantes eux-mêmes et elles-mêmes. Face à cela, Amnesty, qui a enquêté pendant 2 ans, demande aux autorités françaises de reconnaître publiquement le rôle important que jouent les militants et militantes pro-migrants à Calais et à Grande-Synthe, et de veiller à ce que les forces de l'ordre actives dans la région se conforment aux règles d'intervention les plus strictes. Dis donc, sacré truc, demander que les flics respectent la loi, quoi. L'État considère ces militants comme des fauteurs de troubles, selon... Alors c'est toujours Amnesty qui nous dit ça, hein, et qui rappelle aussi que la ville de Calais a pris 2 arrêtés. Alors on avait parlé ici, mais quand même, à répéter, c'est toujours un peu dingue. 2 arrêtés municipaux, donc, qui interdisaient la distribution de nourriture en mars 2017. Et la ville de Calais a aussi bloqué l'installation de douches provisoires sur un terrain appartenant à une organisation caritative locale. Contrôle d'identité, contravention de stationnement à l'encontre des véhicules livrant de la nourriture. Les forces de l'ordre ont essayé d'empêcher les défenseurs des droits humains de distribuer des vivres à Calais, estime Amnesty, tout en soulignant qu'ils ont été victimes de campagnes de dénigrement et de harcèlement. L'ONG a rencontré 38 défenseurs et défenseuses des droits humains entre août 2018 et janvier 2019, dont des bénévoles et des membres d'une dizaine d'associations qui sont basées à Calais et à Grande-Synthe, où des camps de migrants sont régulièrement évacués.
Stop the engine!
bah, pour vous introduire, c'était le son d'une vidéo, hein, parce qu'on n'a pas, la vidéo sur Radio Canut, mais voilà, d'un sauvetage qui avait eu lieu en 2015 ou 2014, je ne sais plus exactement. Bref, qui avait donné lieu à une plainte collective par tout un tas de trucs. Bref, voilà. Donc, on accueille dans ce studio Marie et Hugo de Sea Watch. Alors, déjà, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique rapide de Sea Watch, de pourquoi ça a été créé, tout ça?
Ouais, sans problème. Du coup, Sea Watch est une asso allemande qui est basée sur Berlin. Ça a été créé courant 2014. En fait, c'est quatre bandes de potes dans la banlieue de Berlin, dans le Brandenburg, qui étaient un petit peu horrifiés à l'idée que l'opération italienne Mare Nostrum s'arrête et se dire bah, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là. Et ils s'avouaient que dans ces gens-là, il y avait deux familles qui avaient un peu de thunes. Et elles se sont dit, bah, on va acheter un bateau et au moins aller voir ce qui se passe. Et elles se sont branchées avec d'autres gens dans d'autres villes d'Allemagne, en plus de gens qui étaient pas mal situés sur la Hollande, qui avaient un peu des compétences maritimes. Et elles ont trouvé un premier bateau. Toutes ces personnes, elles ont passé à peu près 6 mois à essayer de penser l'idée du projet et à préparer ce bateau pour aller en mer. Tout le monde leur disait que c'était un petit peu impossible, ils n'avaient pas de thunes à ce moment-là, pas des milliers de connaissances. Et ils sont descendus début 2015 pour une première mission où ils étaient plus dans un mode aller observer ce qui se passe. Il y avait un petit équipage, ils avaient quand même pris un médecin, des gilets de sauvetage. Ils ont même croisé à l'époque, il y avait juste un autre bateau de MSF qui avait commencé aussi à être actif au même moment par rapport à l'arrêt des sauvetages des gardes-côtes italiens. Et après avoir croisé ces gens-là, ils se sont retrouvés dans la zone de sauvetage et ça a été un démarrage en fanfare où en fait ils ont croisé un bateau le premier jour, puis un deuxième bateau le deuxième jour, puis 5 bateaux en même temps le troisième. Enfin, je résume, hein, c'est pas des faits réels, mais en gros ça donne ça. Et ça a fait que ça a pris énormément d'ampleur. C'était dans le contexte où en Italie... en Allemagne, il y avait quand même une politique de l'accueil à ce moment-là où on disait bah, les gens qui viennent par les routes de l'Est ou tout ça bah, sont un peu les bienvenus. Ce qui fait qu'au niveau, ils ont eu pas mal de soutien au niveau financier très vite, ce qui a permis de grossir assez vite, pas dans le sens de devenir une super NGO, etc., mais au moins d'avoir des sous pour acheter du matériel de sauvetage, de pas galérer à trouver des gens, parce que c'est une asso qui est majoritairement basée sur le volontariat. Donc trouver des gens qui viennent en mission pour voir ce qui se passe et agir. Et voilà un petit peu sur comment ça s'est créé pour le contexte général. Et depuis, la situation a fait que, ayant à rentrer de plus en plus des gardes-côtes libyens, de la marine, des autres acteurs, Sea Watch a été un peu obligé de grossir et, entre guillemets, de se professionnaliser sur le fait d'acheter des plus gros bateaux, qui puissent aller plus loin, qui soient capables de ramener les gens. Ça a été vraiment une ligne rouge pendant longtemps où Sea Watch ne voulait pas, pendant jusqu'à fin 2016, ramener les gens en Italie ou nulle part, parce que, tout simplement, en considérant que c'était à l'Europe de le faire, et voulait surtout pas faire un service qui doit être... fait par les autres, donc c'était le but d'avoir des bateaux trop petits pour pas pouvoir prendre les gens et de naviguer, mais de pouvoir au moins sécuriser les personnes, d'avoir des médecins sur place et de pouvoir attendre que les Italiens ou les Maltais viennent les chercher. Malheureusement, au bout d'un moment, même ça a été plus possible. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Sea Watch en est à son troisième bateau, qui est en fait l'ancien bateau de MSF qui avait dû arrêter pour des raisons financières et qui continue. Et la situation un peu actuel, c'est la situation d'un bateau qui, depuis les 7-8 derniers mois, est majoritairement à quai, parce que une grosse criminalisation de toutes les ONG en mer Méditerranée, qui fait que tout est tenté par tous les pays européens pour que les bateaux ne naviguent pas dans une politique de « il n'y a rien à voir, passez votre chemin un petit peu ».
Actuellement, vous avez combien de bateaux? Enfin, quels sont vos moyens en termes de personnes, d'équipage, de nombre de bateaux, de...
Sea Watch n'a qu'un seul bateau.
Ouais.
On a également un avion qui s'appelle Moonbird, qui va nous servir à quadriller la zone de recherche. Donc, quand on parle de sauvetage en Méditerranée centrale, on parle de SAR Zone, Search and Rescue Zone, donc qui est cette zone qui se situe au nord de la Libye. Et le Moonbird va aller quadriller la SAR Zone et va donner les informations au bateau. Et après, en moyens humains, on a une... c'est assez moche de dire ça comme ça, mais on a une réserve d'équipage Enfin, on a du coup pas mal de volontaires qui sont déjà passés sur le bateau depuis 2014, qui sont prêts à rembarquer régulièrement. Et on a de plus en plus de marins professionnels aussi qui rejoignent l'ONG pour avoir des sauvetages plus efficaces.
En gros, du coup, j'imagine les équipes tournent pour éviter que les gens finissent sur les rotules.
Oui. Oui, on essaye de faire des missions qui durent 3 semaines et donc les personnes sont censées tourner toutes les 3 semaines. D'autres vont pouvoir enchaîner plusieurs missions de suite, donc au maximum 3. Mais globalement, ça tourne assez souvent, oui.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, déjà, est-ce qu'il y a eu un changement entre avant que ces gardes-côtes libyens là, prennent une telle importance? Est-ce que, en gros, comment se déroulait avant une opération de sauvetage et comment ça se déroule maintenant s'il y a eu un changement avec ce nouveau facteur qui n'est pas des moindres?
Plutôt changement énorme en fait. Et qui est autant dû à la place que prennent les soi-disant gardes-côtes libyens qu'aux fermetures des ports en Italie en juin de 2018, l'année dernière. Donc, au départ, il y avait quand même quelque chose où les Italiens étaient dans une position où ils venaient de finir une opération d'envergure en Méditerranée, mais un peu forcée par l'Europe et forcée par Frontex. C'était pas une décision unilatérale de leur côté. Ils étaient plutôt en mode « on a commencé à faire ça ». Ça serait bien que tout le monde s'y mette et qu'on répartisse les gens. L'Europe a dit « non, on va faire un truc avec Frontex et on va arrêter votre truc ». Donc, au départ, les centres de secours italiens qui étaient plutôt super coopératifs, c'est-à-dire qui bossaient clairement main dans la main avec les ONG en filant les infos, en prenant réellement la responsabilité de coordonner les actions de secours.
Donc ça, c'était Mare Nostrum. Non, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est les mêmes personnes qui étaient impliquées dans Mare Nostrum, qui sont les gardes-côtes italiens et les centres de coordination de sauvetage.
Mare Nostrum s'arrête en 2014 au moment où les ONG commencent à être vraiment présentes sur zone. Les ONG vont prendre un peu le relais de Mare Nostrum. C'est une opération qui s'est arrêtée juste avant que nous on arrive.
Et donc, dans ce cadre-là, en fait, les opérations de sauvetage, elles se déroulent sur le fait que, au tout début, Les bateaux petits font juste aller sécuriser les bateaux, prendre en charge les cas médicaux, et les Italiens venaient chercher encore avec des bateaux rapides les personnes. De fil en aiguille, au bout d'une année, l'Italie, c'est aussi un afflux qui est quand même continuel. 2015, c'est une grosse année avec énormément d'arrivées, continue à dire, et l'Europe, s'il vous plaît, on partage un peu. Ça se passe pas, et ils mettent une politique où on n'envoie plus de bateaux, où on met du temps à les envoyer. Donc il n'y a plus ces petits bateaux rapides italiens qui mettent à peu près 12 heures pour aller sur zone s'ils veulent. Ils peuvent être là assez vite. C'est des sortes d'immenses canaux de sauvetage rapides qui peuvent être assez speed et venir sur zone. Et là, on passe sur un truc où les gens sont souvent un peu bloqués en mer un peu plus longtemps, où c'est les plus gros bateaux d'ONG comme MSF, comme SOS qui commencent à faire des allers-retours pour aller ramener les gens. Et on arrive, cette situation se maintient un petit peu, mais avec une stratégie coordonnée de financement des soi-disant gardes-côtes et qui amène au bout de 6 mois à la fermeture des ports italiens avec les fachos de la Ligue qui rentrent au pouvoir et qui stoppent tout en gros, un arrêt net, et qui donne des situations où il n'y a plus de solution qui existe. C'est-à-dire que les ports sont fermés, l'autre port dans le coin c'est Malte. Malte c'est une île toute petite qui avait déjà des accords sous-main pour pas trop récupérer les gens. Mais qui se retrouve sur un truc où en fait ils ont pas la volonté et pas la capacité non plus, parce que ça restait une petite île. Et on a une situation où c'est du cas par cas, où à chaque fois qu'il y a des gens qui sont récupérés sur un bateau, c'est des jours et des jours en mer, je sais pas comment décrire la situation, mais c'est des situations inhumaines où on rentre dans un jeu politique au niveau européen où on utilise un peu ces gens en mer pour comme monnaie d'échange pour plus ou moins des accords à droite, à gauche, et des choses comme ça. Et ça, c'est la situation encore actuelle aujourd'hui.
Ça, c'était les moments où, les moments, comme si j'en parle au passé, mais où les bateaux attendaient loin des ports et où il y avait une espèce de pression, un peu de pression européenne pour dire, allez, qui en prend combien, quoi.
C'est ça.
L'Italie, c'est parce que vous adorez l'Italie, c'est parce que...
Ouais, c'est joli quand même.
Et du coup, est-ce que c'est stratégique pour une question technique de proximité des zones de sauvetage?
C'est une histoire de réglementation maritime. En fait, dans le droit maritime, le port donc le port où on doit débarquer les personnes qu'on récupère lors d'un sauvetage, c'est le port le plus proche. le port sûr le plus proche. Et là, le port sûr le plus proche, c'est le port de Lampedusa, en fait. Et c'est, du coup, c'est l'Italie qui est la plus proche de la SAR zone libyenne. C'est juste une histoire de droit.
Et du coup, au niveau des... bon, on sait, parce qu'il utilise Twitter plus que nous, mais on sait ce que Salvini en pense de tout ça. Mais au niveau des gens de Lampedusa, que ce soit la mer ou la population locale, que ce soit les gens en Sicile, tout ça. En Sicile, il y avait eu des hôteliers qui avaient mis des banderoles là, pour dire « laissez-les débarquer », tout ça. Du coup, c'est quoi est-ce que vous captez un peu c'est quoi l'ambiance des populations sur place?
Bah, les gens sont hyper soutiens sur place, mais globalement les populations civiles italiennes et même maltaises, hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Bah, ils sont conscients du drame humanitaire qui est en train de se passer et du rôle qu'ils peuvent avoir aussi. Ils sont hyper, chouettes avec le bateau, hyper chouettes avec à mettre tout le temps des banderoles sur la côte et à dire welcome et ouais.
Et du coup, une fois que les gens débarquent, donc ça c'est pour la partie où on est plutôt content et contente, là, quand les gens arrivent à débarquer en Italie, qu'est-ce qui se passe concrètement pour eux? Est-ce qu'ils sont pris en charge par les autorités libyennes directes et mis dans des centres, les CIE, les équivalents des centres de rétention en Italie? Est-ce qu'on sait un peu ce qui leur arrive?
Bah du coup, ouais, quand les gens ils débarquent, en ce moment ils sont tous enregistrés par Frontex d'abord, c'est-à-dire qu'ils débarquent du bateau et en gros t'as des ONG qui sont sur place, qui sont Médecins du Monde, Save the Children et la Croix-Rouge généralement, qui viennent accueillir, serrer la main aux gens, les mettre dans une sorte de tente. Derrière c'est un enregistrement de tout le monde où d'une part ils prennent les empreintes, font un premier papier administratif qui se retrouverait être le papier qui va suivre les gens tout le long. Donc c'est le moment où il ne faut pas faire une faute d'orthographe ou quoi que ce soit sur le document. Et en même temps, là ils le font moins qu'avant, mais c'est le moment où ils cherchaient le pseudo-passeur du bateau. C'est-à-dire que même si y a 7% des gens en ce moment qui meurent sur les bateaux, il y a quand même les passeurs qui sont pleins de thunes qui viennent dessus pour essayer de mourir. Et donc généralement ils accusaient soit la personne qui avait pris un moment la conduite du bateau au niveau du moteur, soit qui avait un téléphone,
était le plus proche du moteur, ouais, tout simplement.
Et en disant que c'est un passeur. Souvent les statistiques aujourd'hui là de Frontex sur combien de passeurs ils ont arrêté ces derniers temps, c'est ces gens-là. Hein. C'est des personnes qui sont retrouvées sur une photo à côté d'un moteur.
C'est ça. Ouais. Sur un bateau en général où il n'y a pas de place.
Ouais, puis où celui qui va prendre la direction un peu des choses, qui va se mettre à côté du moteur, qui va se dire allez, je vais essayer de le piloter quand même, ça va être peut-être le plus courageux, celui qui va essayer de rassurer les autres, qui va être, enfin ouais, c'est bon, un des plus humains du bateau quoi.
Bonjour, c'est Watch.
Bonjour.
Merci d'être là. J'aime toujours rappeler que quand des personnes arrivent en Italie, en Espagne, en France ou en Europe globalement, c'est le deuxième parcours du combattant qui commence, parce que il y a le premier, c'est le passage du désert de la Méditerranée, mais après c'est le parcours administratif de pouvoir réussir à avoir un statut en Europe quoi. Ce que tu racontais là.
Ouais, t'as entièrement raison, mais c'est vrai que cette partie là nous après on intervient moins dedans, c'est-à-dire que c'est un peu le relais avec ces autres ONG, c'est aussi un but de pas pouvoir tout faire et que ce soit bien, que ce soit aussi d'autres gens à terre qui fassent les choses, mais c'est vrai que c'est clair, ça fait partie d'un tout où en fait il n'y a pas l'accueil derrière et si les gens ils n'ont pas de solution à l'arrière, ouais, la première partie ne sert pas à grand chose non plus en fait. Mais
est-ce qu'on sait s'il y a des espèces de failles dans leur truc de une fois que les gens arrivent comme ça et qu'ils sont dans le goulot de vous arrivez, on vous met dans les tentes et on vous et Frontex vous tamponne le truc, c'est des gens qui essayent de... Non, il y a pas moyen.
Non, il n'y a pas moyen.
Il ouais. Voilà, y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. On est dans un port, c'est des zones assez sécurisées. On est généralement sur au bout de grands quais. Il faut savoir, dans les ports de Sicile, maintenant, il y a des tentes en dur qui sont installées sur ces ports pour le débarquement des personnes. C'est assez, ils ont quelque chose d'assez bien rodé pour contrôler ces moments-là. Les trucs où il faut faire juste gaffe à ces moments-là, c'est justement que les familles ne soient pas séparées, que les personnes... Parce qu'une fois que c'est fait, en gros, les gens débarquent et assez vite, ils essayent de les faire partir dans des bus qui vont pas forcément dans la ville et qui peuvent aller assez loin directement. Il faut faire juste assez gaffe que les personnes qui se connaissent, c'est un peu plus dur, mais au moins les personnes de la même famille soient dans les mêmes bus.
Ouais.
Donc ça, on essaye juste de garder un œil du bateau, etc. Essayer de gueuler un peu si on voit que ça se fait pas. Mais à part ça, on peut pas faire grand-chose.
Oui, parce qu'après, au débarquement, il y a effectivement les autres ONG qui sont là, qui vont être chouettes, qui vont prendre soin un peu des gens qu'on va débarquer. Mais il y a aussi plein de keufs, quoi. Et entre autres, en Italie, il y a la Guardia di Finanza, qui est vraiment hyper au taquet là-dessus, quoi. Du coup, ils sont moins sympas.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment comment ça se passe un sauvetage, comment les embarcations sont repérées,
Oui.
Comment ça marche, quoi?
Alors, bah, du coup, le bateau commence à faire route sur la SAR zone, donc au début de la mission. Une fois arrivé sur cette zone-là, on va naviguer avec ce qu'on appelle des motifs de recherche, donc c'est faire des grands S. Vers le nord, vers le sud, vers le nord, vers le sud. On va travailler aussi du coup avec le Moonbird qui va faire pareil, des motifs de recherche, tout, tout, tout. Et une fois qu'il y a des embarcations qui vont être repérées, soit à la jumelle, soit par l'avion, soit aussi par une veille du coup auditive, sur l'eau le son se propage très très loin, donc on peut aussi entendre en écoutant. On va mettre à l'eau ce qu'on appelle les RIB. Donc les RIB, c'est des semi-rigides qui sont hyper rapides. Et donc, parce que le Sea-Watch fait une cinquantaine de mètres. C'est un espèce de gros machin qui est très haut sur l'eau, qui fait beaucoup de bruit, qui est assez impressionnant. Du coup, qu'on va laisser un petit peu plus loin des embarcations. Et là, on va approcher les embarcations en détresse avec du coup nos deux semi-rigides. Qui sont,
semi-rigides, ça veut dire des zodiacs.
Des zodiacs, oui, pardon.
Oui. Ah oui, merci. On a une meilleure image comme ça.
Oui, c'est ça. C'est deux zodiacs orange avec des gros moteurs qui vont assez vite. Et là, on va s'approcher des bateaux en détresse. Et le premier truc, ça va être de calmer les personnes qui vont être dans les bateaux. Donc de s'approcher tranquillement. À bord de ces semi-rigides, on essaye d'avoir des personnes qui vont parler arabe, français et anglais. Et qui vont essayer de leur parler dans la langue qu'ils vont le plus comprendre. Et de leur dire calmez-vous, c'est bon, ça va bien se passer, on est là. Une fois que les personnes sont un peu calmées, on va les transférer du coup dans le semi-rigide, dans les équipes de gilets de sauvetage évidemment. Et là, on va les ramener à bord. Et à bord, il va y avoir des circuits qui sont un peu mis en place dans le bateau. Donc toutes les personnes qui vont embarquer sur le Sea-Watch vont d'abord être examinées par un médecin. C'est horrible, ils sont pas triés, mais bref. Enfin bon, donc les cas les plus graves vont être envoyés vers l'hôpital, parce que donc sur le bateau, il y a un hôpital de fortune un peu. Et puis les autres.
Il est quand même bien.
Oui, il est bien. Il est chouette, mais bon. Parce que voilà, on vient à un hôpital. Et les autres vont être mis sur la plage arrière, sous une espèce d'immense tente qu'on a à l'arrière du bateau. Et puis là, après, va commencer toutes les. Donc, on va prendre leur demander leur nom. On va leur demander de nous raconter leurs histoires, s'ils le peuvent. On va essayer de consigner un maximum d'informations sur les personnes qu'on va accueillir à bord. Et puis là, après, on va commencer du coup à essayer de trouver un port.
Donc, pardon, pour revenir, ces oui. informations, après, elles vous servent à... Vous les transmettez aux autres ONG pour une demande d'asile ou...
Éventuellement...
Ouais. En fait, il y a Sea-Watch qui essaie de. Il y a une personne sur le bateau qui fait un peu ce boulot-là de récolter des témoignages et qui sont plus sur la situation sur place, etc. Et pour faire du plaidoyer, surtout. Donc en fait, ce n'est pas des informations qui vont être retransmises forcément derrière. C'est assez clarifié avec la personne qui la donne, mais c'est pour pouvoir peser sur un truc de plaidoyer plutôt. Où en fait, les infos, les seules choses qui peuvent être remises aux personnes, c'est des certificats médicaux s'ils le demandent. Pour de constatation de violence. Donc il y a ça qui peut être fait, redonné à la personne, mais en dehors de ces certificats médicaux qui sont personnels, qui sont remis à la personne si elle le souhaite, et après elle en fait ce qu'elle veut, elle peut le détruire ou pas au moment de descendre, et à part ça, ce certificat, il n'y a jamais rien qui est remis aux personnes.
Voilà.
Ça, on se fait une petite pause musicale et on vous retrouve juste après.
Emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time.
We come and rougher every time. Hey, 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 hey.
We come and rougher every time.
Emigrada, emigraniada.
them we got nothing to say. Emigrada, emigranada, for them Don Quixote is kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard, we come and rougher every time. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened.
Et c'était Gogol Bordello avec
Immigraniada.
Voilà. Donc, voilà, dans le thème, c'était nous reviendrons toujours plus nombreux et plus forts.
Mais ça se joue plutôt sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, cette chanson.
On a vu un peu le parcours où, quand ça se passait, où vous arriviez à récupérer les personnes et que vous arriviez à accoster en Italie. Ça, c'est pour la partie la plus heureuse, si on peut dire ça. Mais il y a quand même les gardes-côtes libyens qui œuvrent en Méditerranée, qui sont armés et équipés et financés et formés par l'Union européenne. C'est pas des potes?
Non.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi vos interactions? Qu'est-ce que...
Moi, j'ai juste un petit chiffre à placer. Du coup, l'Union européenne a formé 400 gardes-côtes libyens depuis 2017. Ce qui est énorme, vraiment, ce qui est beaucoup, beaucoup.
Ouais, et tu me disais même que du coup, est-ce que vu que la zone sur laquelle elles partent les gens, c'est à peu près 400 km, ouais. C'est quand même du 1 garde-côte au kilomètre carré. C'est plus que ce qui existe nulle part. Hein.
C'est 4 fois plus qu'en France.
C'est bien de le rappeler.
Oui.
Du coup, ce qui se passe, une fois que les personnes sont interceptées par les garde-côtes libyens, ils sont refoulés en Libye. Et qui dit refoulement en Libye, ça peut dire déjà, ça peut commencer à mal se passer dès sur le bateau. On a des vidéos où on voit que les personnes peuvent déjà commencer à se faire maltraiter et frapper sur le bateau. Parce que sur des trucs où les gens ils ont vraiment pas envie d'y retourner, donc ils se laissent pas forcément faire, ça peut créer des situations où les gens ressortent du bateau à l'eau. Il y a des gens qui préfèrent mourir à ce moment-là, parce qu'en fait s'il n'y a pas d'autres bateaux à côté, les gens ils sont mieux de la mer. Hein.
Et aussi, moi je trouve que ça vaut toujours le coup de préciser, on parle quand même de gens qui, je pense, pour une partie d'entre eux en tout cas, ne savent pas nager.
Oui. Pour une grande partie.
Ouais, ils ont très peur de l'eau, mais après ils nous disent ça clairement, hein, je préfère mourir que de retourner en Libye.
Et le retour en Libye, c'est le retour dans les centres de rétention libyens, qui ont aussi, hein, par la même occasion, été financés, mais plutôt en 2006-2007 par l'Italie surtout, à ce moment-là.
Et, au moment des premières arrivées sur Lampedusa.
Ouais, avec les accords avec Kadhafi à ce moment-là. Du coup, c'était le pacte de fraternité ou d'amitié, je ne sais plus comment ils disaient ça, entre l'Italie et la Libye. Et c'est le début des financements où les premiers bateaux ont été finis. En fait, là, c'est une reprise d'une activité qui a existé, qui était déjà, on était déjà il y a 10 ans dans une politique d'externalisation de la frontière. C'est juste qu'on est passé à un niveau ultra supérieur maintenant.
C'était ce pacte que Kadhafi menaçait du coup et a réellement du coup fait sauter au moment où la France menaçait et est intervenue en Libye en disant si vous intervenez, voilà ce qui va se passer.
Exactement. Voilà.
Oui. Et du coup, c'est retour à la case départ et c'est retour dans les centres de rétention administratifs où clairement, comme vous l'avez dit, non, je ne sais plus si vous en avez parlé, mais on en a parlé au début dans la brève, mais du coup, c'est les mots d'esclavagisme, de torture, de viol, de travail forcé, de plein de choses en fait qui sont à revivre dans ces cas-là. Et c'est des gens qui travaillent généralement aussi dans des circuits fermés avec les passeurs au final, où on a des groupes de garde-côtes qui on n'a pas une garde-côte en Libye. Ça fonctionne pareil, on le voit bien aujourd'hui, qu'il y a des groupes de milices qui sont un peu de partout aux différentes villes et des contrôles différents, mais ça fait autant de garde-côtes différents. C'est-à-dire que, donc autant de situations sur comment gérer les gens un peu différemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des garde-côtes qui sont plus à l'est ou des fois qui vont juste prendre les gens, les relâcher dans la nature, il y en a d'autres qui vont les refiler aux passeurs, il y en a d'autres qui vont les mettre dans les centres de rétention. Il n'y a pas de règle en soi. Il y a beaucoup les gardes-côtes de Tripoli et d'une autre ville qui communiquent sur Twitter et Facebook, qui font des jolies photos des gens qu'ils ont ramenés. Donc ceux-là, on sait plus ou moins ce qui leur arrive, où ils retournent dans les centres de rétention. Mais les autres, on n'a pas de vrais chiffres. Moi, j'ai eu des témoignages de gens sur le bateau qui avaient déjà fait 2-3 tentatives de traversée et qui disaient clairement pour eux que le passeur les faisait payer, les dépouillait au moment du départ. Et même pas quelques heures après, en fait, il y avait les gardes-côtes qui arrivaient pile sur l'endroit du bateau. Pour eux, c'était clairement un truc où les gens bossaient ensemble, en fait, où c'était une autre forme de raquette que de mettre quelqu'un sur un bateau. Et...
Ce qui se passe en Libye à tous ces niveaux-là, ça représente 25% du PIB de la Libye.
Et en... Okay.
C'est toujours des histoires de gros sous.
Oui.
Et bon, mais en gros, du coup, les gens sont ramenés en Libye. Ça fait qu'il y a éventuellement quand même la. Bon, il y a revivre tout plein de trucs, mais il y a la possibilité, j'imagine, de retraverser. Parce qu'il y en a qui retournent plusieurs fois. Alors j'imagine que des fois, les autorités ont aussi intérêt de faire semblant, de laisser ces gens s'évader pour avoir à gérer moins de choses. Non.
Bah, a priori, non, les gens ils sont quand même bien bloqués. Les gens qui arrivent à sortir, souvent, c'est par le travail forcé ou des choses comme ça. Ou en gros, tu peux venir faire ton marché à l'esclavage dans le centre de rétention. Et si tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de ton jardin ou faire la cuisine, tu peux réellement passer au centre de rétention, aller acheter quelqu'un. Clairement. Et du coup, moi, les gens qui ont réussi à s'échapper, j'en ai beaucoup de les témoignages que j'ai sur le bateau, c'est une fois chez ces personnes. En gros, bah, ils se barrent parce qu'ils ne sont pas surveillés non plus 24 sur 24. Par contre, à ce moment-là, il faut se barrer de Libye. Parce que les gens qui se permettent d'aller acheter d'autres en centre de rétention, c'est des gens qui sont assez influents généralement et qui en tout cas, 10 peuvent te retrouver. Donc là, le but, c'est le départ au plus vite après. Et la situation actuelle, elle est encore plus bloquée parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre ouverte. Avant, c'était un conflit un petit peu plus silencieux entre les milices. Et il y a une anecdote là aujourd'hui où il y a le... MSF qui intervient sur certains centres où qui disait qu'ils avaient réussi à faire bouger 400 personnes d'un centre qui était vraiment dans les zones de combat. Donc ils avaient réussi, je crois même, à avoir des autorisations pour envoyer certaines personnes en Europe sur les trucs de regroupement familial, etc. Donc ils ont fait moins 400 sur un centre là en deux mois, mais ils ont fait 1200 arrivées.
Ok.
Donc en fait, on vide dans un sens, mais ce truc des gardes-côtes, et là, ils demandent vraiment l'arrêt, on demande tous l'arrêt de financement de ce trafic, quoi.
Et concrètement, quand vous arrivez sur une zone de sauvetage où il y a une embarcation en difficulté, si vous et les gardes-côtes libyens arrivent à être en même temps sur la zone, il se passe quoi?
C'est à celui qui va les récupérer le plus vite,
ouais.
Sachant que les gardes-côtes libyens sont armés et pas nous, et que eux, c'est des fous furieux et nous, on est un petit peu moins... attention à la personne humaine, en tout cas. Non, l'idée, c'est vraiment d'arriver les premiers sur le bateau, quoi.
C'est-à-dire qu'eux, ils vont pas hésiter, dans ce que tu dis, j'imagine, c'est-à-dire qu'ils vont pas hésiter à se rapprocher au plus près de l'embarcation,
ouais.
Quitte à ce qu'il y ait des gens qui se noient sous leur bateau.
Oui, à ce qu'ils fassent passer des mecs dans leur hélice, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste que nous, on se barre le plus vite possible. Et pour ça, il y a eu même des époques, là, ça se fait un petit peu moins maintenant, ils nous disent plus de nous barrer et puis c'est tout, mais il y a eu des époques où ils nous tiraient dessus, quoi.
Et du coup, vous, j'imagine, vous avez un peu la pression de pas non plus jouer la pression en disant à un moment, peut-être, vaut mieux peut-être lâcher et pas trop vous approcher pour pas qu'ils se rapprochent trop. Ou... Ouais,
c'est des décisions qui sont toujours compliquées. Après, on reste dans un contexte maritime où, malgré tout, même si on est dans ce truc humanitaire qui est hyper grave, ce sera toujours le bateau et l'équipage d'abord. Malheureusement, on reste des marins, quoi.
Je crois que tu en parlais au début, là, il y a une vidéo qui a été sortie en 2015 sur une de ces interactions où, qui avait été toute reconstituée par un groupe de chercheurs là, un peu européens et le New York Times. On voit un peu une de ces interactions où Sea-Watch arrive sur un bateau, les Libyens en même temps. Donc du coup, Sea-Watch reste un peu en retrait jusqu'à ce qu'il y ait des gens dans l'eau en fait. Un peu, il y a une limite souvent des gens qui sont en train de faire du sauvetage, c'est qu'à partir du moment où il y a quelqu'un dans l'eau, on y va quand même. Et par contre, ça crée une sursituation où bah, du coup, ils se rendent compte que les gens qui ont peut-être un espoir d'aller sur le Sea-Watch et ça crée un gros bordel. Sachant que dans cette vidéo, on voit pas le début, mais Sea-Watch est là en premier. Ouais, Sea-Watch arrive avec ses rives en premier, le gros bateau est pas là, mais la vedette arrive et fonce sur les rives, donc les canaux rapides de Sea-Watch. Du coup, les rives s'éloignent parce qu'ils se font foncer dessus.
Et ça, et dans la vidéo qui a été traduite par Courrier International, on entend les gardes-côtes libyens clairement vous menacer en disant la prochaine fois, si vous êtes la cible, la prochaine fois on vous tue.
Tout à fait.
Voilà, et alors ça c'est pour les... Du coup, si on fait, on passe en revue un peu tous les acteurs et actrices présents sur la zone, il y a aussi les navires commerciaux qui sont là et qui jouent une part un peu... Enfin, qui jouent leur part, quoi. Du coup, c'est quoi leur rôle? Moi, en lisant un peu les médias, on avait l'impression qu'il y avait peut-être... Enfin, moi en tout cas, dans des trucs, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de lassitude, voir peut-être les gens, ils disaient, bon, on commence à en avoir marre, on va les plus les lâcher facilement aux gardes de côte libyen. En en discutant avec vous tout à l'heure, vous me disiez que non, c'était pas ça. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire
Les navires marchands, il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui vont se dérouter pour éviter la SAR zone, mais ça fait perdre énormément d'argent aux compagnies, donc ils évitent. Il y a ceux qui passent dans la SAR zone et qui tournent la tête. Il y en a quelques-uns. Après ça, du coup, on s'occupe aussi de consigner les noms, les numéros IMO et de faire en sorte que ce soit pas non plus laissé passer sous silence. Et après, il y a ceux qui veulent faire des sauvetages, mais pour qui c'est hyper compliqué parce que c'est des équipages qui sont pas formés au sauvetage, qui sont pas formés au crowd control, donc au contrôle de grands groupes humains sur les bateaux. C'est des bateaux qui ont peu de place, même s'ils sont énormes, en fait, ils ont peu de place dans les habitations. Et c'est des personnes qui ne sont pas préparées à vivre des situations difficiles, comme ça peut être le cas sur ces sauvetages-là. Donc, ils vont essayer de faire des rescues. Et là, typiquement, dernièrement, il y en a un qui a fait un sauvetage, qui a essayé de faire du mieux qu'il pouvait, et puis qui du coup après passe des appels aux autorités dites compétentes, donc qui sont là, bah, malheureusement les gardes-côtes libyens. Il se retrouve sans réponse de la part des gardes-côtes libyens, puisque ces mecs-là ne répondent jamais à personne, et donc ils savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus en pleine mer avec des mecs à bord en vrac total, et eux avec aussi une feuille de route où ils ont finalement un port d'escale qui est prévu, ils ont une cargaison à charger, à décharger. Donc voilà, donc là ce bateau-là typiquement a fait route sur son port d'escale qui était en Libye, et donc il s'est retrouvé avec des policiers et des mecs de l'armée libyenne à bord pour faire sortir les gens qu'il avait récupérés de force. Il a refusé une première fois et puis a priori ça s'est mal terminé puisqu'il a été obligé de les débarquer quand même le lendemain. Donc voilà, c'est les navires marchands ont besoin aussi de nous, et nous on est en train de mettre en place aussi des partenariats avec eux pour ne pas les laisser tout seuls, pour leur fournir un support légal et matériel et logistique.
Mais ouais, un petit truc à rappeler quand même, c'est que jusqu'à ce qu'il y ait ces situations de blocage, de stand-off long avec des gens à bord pendant longtemps, tant qu'il y avait d'autres bateaux d'ONG pour récupérer les gens, quand même, généralement, ils faisaient le boulot. C'est-à-dire qu'ils se déroutaient, si c'était pour perdre 8 heures, 10 heures, etc., c'était un truc qu'ils faisaient, ils le faisaient volontiers, quoi. Ça reste des gens qui sont des marins, et pour qui ça reste super important, en fait, cette notion de sauvetage. Et du coup, quand là, ils tournent les yeux, etc., c'est souvent pas des choix personnels. Mais c'est des histoires de boulot aussi, de consignes qu'ils ont.
De pression des armateurs aussi.
Et on a eu aussi l'exemple de, par exemple, Malte qui a accusé des migrants de piraterie.
C'était du coup pas tout à fait vrai d'ailleurs.
Oui. Et est-ce qu'on peut finir sur cette histoire de tout ce qui est lié aux entraves au sauvetage et du coup un peu la répression, tout ça?
Ben oui, parce que là, l'Italie, Salvini, il a commencé il y a quelques semaines à poser une sorte de l'inverse qui se passe actuellement, où il y a du sauvetage, le sauvetage est obligatoire à tout marin qui voit un bateau en train de, du moins des personnes galérer et en détresse, et que là c'est l'inverse, c'est-à-dire que il veut passer une loi pour dire si il y a un sauvetage, ça peut être réprimé. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à votre futur de Sea-Watch, quelles sont les conséquences d'une loi comme ça en Italie, une généralisation à l'Europe? Face au résultat des élections européennes, on peut se poser la question, etc.
Là, surtout là, ce qu'on espère déjà, c'est que c'est du Salvini, donc c'est de l'effet d'annonce, et on ne sait pas si ça va aller plus loin déjà dans un premier temps. Parce que c'est un truc qui devait... C'était pas vraiment une loi, mais c'était un truc qui devait... Une décision ministérielle qui devait être appliquée tout de suite. Enfin, comme un peu nos trucs d'article 5, enfin, des lois ministérielles sans que ça soit voté. Et il devait le faire la semaine dernière, et on n'en a pas entendu parler. Donc on espère déjà que ça soit un coup juste d'éclat dans l'eau. Et après, bah, de toute façon, quoi qu'il advienne, nous, ça change pas grand-chose à la situation. Et on continuera à faire la même chose, c'est les décisions de Sea-Watch, c'est bah, jusqu'à ce qu'on se fasse arrêter, quoi, en fait.
Oui, parce que c'est la deuxième question. jusqu'à ce que vous fassiez arrêter, parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux actuellement qui sont à quai, qui ne peuvent pas aller sauver des vies, concrètement, de gens, parce qu'il y a tout un arsenal judiciaire qui s'est mis en place. Du coup, comment vous luttez? Comment il y a des avocats là qui font, justement, tout à l'heure tu parlais de plaidoyer, pour tenir un truc, pour qu'il y ait des bateaux qui continuent à être en mer?
On lutte par plein de moyens différents. Après, on a énormément de personnes aussi, d'avocats très compétents en droit maritime qui sont derrière nous. Et du coup, ça nous donne juste là l'occasion de parler des copains de Jürgen Rethet, dont le procès s'ouvre aujourd'hui. Du coup, le bateau qui s'appelle le Juventa, et où ils en ont pris 10 au hasard et ils les accusent de trafic d'êtres humains. C'est, du coup, les copains, ils risquent 20 ans de tôle pour faire ça. Et voilà, après, on...
Et là-dessus, en fait, du coup, leur assoi, elle n'existe plus trop, parce qu'ils ont perdu leur bateau il y a 2 ans, donc oui, ils arrêtent d'avoir des sous, etc. Et donc, c'est des copines et des copains qui ont besoin de sous. Donc, si vous avez envie d'organiser un truc sur Juventa, il y a un film qui a été fait, qui peut être diffusé, tout ça. Si vous avez besoin, vous pouvez nous envoyer un mail à contact-fr@seawatch.org et on peut vous aider à organiser ce genre de soirée de soutien, ou vous mettre en contact avec les gens. Et ben voilà.
Dès qu'on allait le faire.
Cool.
Ou en large sur Lyon.
Mais ouais, je crois qu'on a juste un petit problème de temps pour aller plus en détail là-dessus, mais c'est un truc qu'on pourra refaire un autre jour peut-être aussi sur cette répression. Parce qu'en fait, je pense que c'est un truc qui peut prendre vraiment une heure, où il y a vraiment une politique là sur les 8 derniers mois qui a été mis en place on fait fermer, que ce soit nous aussi, Sea-Watch, l'état du pavillon en Hollande qui nous met des bâtons dans les rues. Énormément avec des nouvelles lois qui ont été faites, tout ça, mais c'est des trucs qui prendraient trop de temps.
Beaucoup de choses à dire sur l'entrave au sauvetage.
Mais juste pour nous rassurer, comme il reste une minute, est-ce que dans les prochains mois, vous allez juste plus du tout avoir la possibilité de continuer à naviguer, ou est-ce que ça
sûrement
va...
pas. non, nous, de toute façon, on continue, quoi qu'il en soit. Tout le monde lutte et on est au taquet, et non, on continue. Dans les prochains mois, il n'y a pas de souci.
Du coup, le rendez-vous est pris pour la deuxième partie. On passe vite, on nous a gentiment, l'émission d'après nous a gentiment lâché 5 minutes. Donc on peut... Ah bah non, vas-y. Hop.
Alors j'enchaîne, juste pour dire que ce soir, dans la rubrique, il faut que ça sache du Canu Info, on avait des détenus du centre de rétention administratif de Saint-Exupéry, donc à côté de Lyon, qui justement voulaient prendre la parole, et puis finalement, manque de temps, ça ne se fait pas. Et donc ça va se faire soit sur le Canu Info de ce vendredi, soit sur la petite cuillère, soit sûrement mercredi prochain. Voilà, en tout cas, il y a des personnes qui sont là actuellement détenues, qui auraient envie de prendre la parole à la radio. Et tout à l'heure, justement, tu parlais de gros sous. Ah non, c'est toi qui parlais de gros sous sur la question de comment l'Europe, elle se fait du fric sur la sécurisation des frontières. Et il y a des dockers qui ont refusé de charger des armes à destination de l'Arabie Saoudite en Italie, en France, pour servir la guerre au Yémen. Et donc, le Canu Info du lundi en a parlé, mais je voulais le renommer comme bref parce que c'est tellement important. Aussi parce que c'est un communiqué de la CGT, qui est une grosse organisation syndicale, qui nous déçoit à plein de moments, mais là-dessus qui ravit nos petits cœurs quand même, de dire en fait la lutte internationale contre les guerres, et ben dans une action comme ça, elle est concrète, elle est efficace. De fait, les dockers, ils n'ont pas chargé les armes, et de fait ça change des choses. Et voilà, je voulais le resignaler. Et une dernière petite info, c'est n'hésitez pas à aller écouter un petit magazine audio radio qui s'appelle La Minute Emploi, qui est sur Jet FM, une radio associative nantaise. Et en fait, ce sont des fausses annonces d'emploi en lien avec les questions des technologies et aussi le rapport au nouveau travail, c'est-à-dire l'auto-exploitation et le rapport à... aux nouveaux management. Et cette chronique, c'est une critique donc aussi de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment du beau cynisme face à notre société libérale et individualisante. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter tout le temps Radio Canu.
Eh bien, ce Canu Info touche à sa fin. Merci à Idénoir de nous avoir lâché quelques minutes en plus. On n'a pas eu le temps de faire un agenda, mais Idénoir s'en chargera au début de son émission. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous d'être venus.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci
du
beaucoup
coup, pour l'acte 2. Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci de nous avoir
écoutés. Au revoir.
Au revoir.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radioscanu.fr.